Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Raquel Garrido, cofondatrice de L'Après, co-organisatrice du Front Populaire 2027, ancienne députée de la Seine-Saint-Denis. Bonjour.
Bonjour.
Alors le 5 mai dernier, vous avez organisé un rassemblement à la Bellevilloise, à Paris, avec plusieurs leaders de partis et des candidats à la primaire de la gauche. Deux semaines après, est-ce que cette primaire est toujours d'actualité ?
Oui, plus que jamais. De toute façon, tant que l'élection présidentielle n'a pas eu lieu et tant que le risque d'arriver au pouvoir de l'extrême droite n'a pas été écarté, nous avons un devoir moral de tout faire pour éviter l'atomisation de la gauche, éviter sa dispersion. C'est tout l'enjeu et tout le travail qui a été lancé par Front Populaire 2027. Front Populaire 2027, c'est une structure, c'est désormais d'ailleurs un parti, puisque nous avons obtenu l'agrément des autorités administratives pour pouvoir encaisser des donations, des dons de façon défiscalisée. Et c'est donc une initiative de Lucie Castet, qui en juillet 2025 nous a un peu tous convoqués à Bagneux, en banlieue parisienne, en nous disant « pour la séquence de 2027, il nous faut une candidature commune ». Et donc nous avons été un certain nombre à répondre à cet appel, différents partis, différentes personnalités. Et l'idée, rapidement, a été d'organiser une élection primaire, c'est-à-dire de soumettre au choix des différents, de tous les citoyens, en fait, de tout ce peuple nouveau Front Populaire, la question de savoir qui allait être, au nom de nous tous, candidate ou candidat pour aller à l'Élysée. Ce qui n'empêche pas qu'il faut aussi qu'on ait un dispositif pour gouverner le gouvernement, aussi pour les élections législatives, un programme. Évidemment, tout ça est un grand travail, mais je pense que c'est surtout une éthique. C'est l'éthique de dire « j'accepte l'idée de gagner ou perdre une primaire » pourvu qu'à la fin, il n'y ait qu'un seul candidat.
Les précédentes primaires de la gauche ne se sont pas toujours bien passées.
Oui, ça dépend en fait des hypothèses. Des fois, il y a des primaires qui se sont bien passées, qui ont donné des résultats de victoire de la gauche, par exemple 2011, qui a abouti à la victoire de François Hollande. Certaines se sont mal passées, comme en 2017. À droite aussi, ils ont fait des primaires. En fait,
parce qu'on a vu que Manuel Valls n'avait pas appelé à voter Benoît Hamon, et François de Rugy, qui était lui-même candidat à l'époque, a rejoint Emmanuel Macron très rapidement.
Voilà, donc je pense que c'est un des enjeux, c'est derrière une élection comme celle-ci, c'est l'éthique des co-organisateurs. Là, aujourd'hui, parmi les personnes qui sont très engagées, bon, vous avez les candidates, hein, les pré-candidats, pré-candidats, j'utilise ce mot pré-candidat pour différencier des personnes qui ont fait des candidatures unilatérales en disant « j'y vais », et je me fiche complètement de l'espace unitaire, et c'est le cas notamment de Jean-Luc Mélenchon. Donc les pré-candidats à FP27, vous avez Clémentine Autain, qui est députée de Sevran-Villepinte, vous la connaissez, François Ruffin, qui est députée de Picardie, Marine Tondelier, qui est donc la chef des écologistes. Alors Olivier Faure n'est pas pour le moment officiellement candidat à la primaire, mais il est la personnalité socialiste la plus engagée. Dans ce processus. Lorsque nous nous sommes réunis à Bagneux en 2025, Olivier Faure nous a dit à tous et toutes qui étions là, si le candidat, c'est n'importe qui autour de la table, ça me va. Et j'ai trouvé cette phrase très importante parce que cela voulait dire que peut-être le candidat ne serait pas socialiste. Ce qui est un pas très important pour les socialistes.
Ça n'est jamais arrivé.
Et c'est pour l'instant jamais arrivé. Cela voulait dire également, à contrario, que ça pouvait être un socialiste. Et ça aussi, c'était une nouveauté compte tenu de l'évolution du Parti socialiste et la façon dont il a été sérieusement plombé par les années Hollande.
Alors cette primaire est très critiquée, notamment par François Hollande, d'autres candidats de gauche. Pourquoi c'est difficile de réunir tout le monde au sein d'une primaire unitaire ?
Bon, François Hollande, d'abord, je pense, il est... attaché à son bilan. Or, son bilan est catastrophique. Le Parti socialiste a failli pas s'en remettre. La France s'est quand même tapé 10 années presque de macronisme à cause de lui. Et donc, qu'il s'attaque finalement à cette tentative de faire renaître un électorat de gauche dans une vocation de gouvernement, c'est pas tellement surprenant. Pour moi, c'est surtout la marque d'un vrai dysfonctionnement de la politique française. Je trouve regrettable que l'équipe de 2012, en 2012, le duel à gauche, c'était Hollande-Mélenchon. Et je trouve que 15 ans plus tard, que l'on voit ces deux personnes qui veulent jouer des premiers rôles, dit quelque chose de très bizarre de nous. C'est-à-dire, c'est l'influence de l'Élysée, du présidentialisme, les gens, et de l'impunité. C'est une culture d'impunité. François Hollande ne veut pas assumer le fait qu'il a été responsable de la loi Macron qui a permis de libéraliser le travail le dimanche, qu'il a été l'auteur de la loi travail qui a facilité les licenciements, qui a rendu plus difficile d'agir devant le Conseil des prud'hommes. Et donc, dans cette logique d'impunité, ces hommes et ces femmes politiques pensent que tout est toujours de la faute des autres, mais pas de eux-mêmes.
Alors Raphaël Glucksmann, lui, n'a pas de bilan, il est député européen. Pourquoi vous ne le soutenez pas, puisque c'est probablement l'un des dirigeants de gauche les plus populaires en dehors de Jean-Luc Mélenchon?
Alors, Raphaël Glucksmann incarne une ligne social-démocrate, on va dire, il est plus Macron compatible que le Nouveau Front Populaire, qui a un centre de gravité programmatique plus à gauche, hein, avec un programme axé sur la redistribution des richesses, la taxe Zucman, la lutte contre le changement climatique, l'approfondissement de la démocratie, voilà, la Sixième République. En fait, c'est un programme, celui du NFP, qui ressemble beaucoup à celui de l'Avenir en commun, en fait, au fond, celui qui avait été défendu par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise en 2017 et 2022. Raphaël Glucksmann, lui, il est plus aux marges de ce monde-là. Et moi, je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il n'y a pas dans la société française de désir d'un nouveau Macron. Il y a plutôt, à gauche, du moins, quand on a réussi 9 millions de voix le 30 juin 2024, après la dissolution, nous étions quand même à 3 semaines d'avoir un Premier ministre d'extrême droite. Jordan Bardella avait fait plus de 30% aux élections européennes et la gauche était totalement divisée. Et ce peuple NFP est sorti de terre et on a réuni 9 millions de personnes sur un programme qui est un programme beaucoup plus à gauche, beaucoup trop à gauche pour Raphaël Glucksmann.
Raquel Garrido, vous venez de le dire, votre programme au sein du Front populaire 2027 est très similaire à celui de la France insoumise, dont vous avez été une des membres éminentes avant d'être purgée par Jean-Luc Mélenchon. La gauche hors LFI n'a pas de candidat, pas de projet, alors que lui, Jean-Luc Mélenchon, est en campagne, il a de bons sondages. Vous avez déclaré récemment que sa quatrième candidature était une candidature de trop. Face au risque de voir le RN gagner la présidentielle, pourquoi ne pas soutenir celui qui peut se qualifier pour le second tour?
Le Front populaire 2027 a un projet. D'ailleurs, j'invite chacun à aller le voir sur Internet. Vous pouvez aller sur frontpopulaire2027.fr. Nous avons notamment mis en ligne plus de 60 propositions articulées sur 8 priorités. Et du travail en commun programmatique, nous l'avons fait de façon régulière depuis 2022, en fait, depuis la fondation de la NUPES. Souvenez-vous, moi j'étais, comme vous l'aviez rappelé, 30 ans mélenchoniste. Pendant 15 ans, nous étions au Parti socialiste. Ensuite, nous avons quitté le PS. Nous avons rompu avec la social-démocratie. Et en 2022, après la troisième défaite de Jean-Luc Mélenchon, nous avons finalement décidé, quelque part, de réunifier la gauche. Mais pas à n'importe quel prix. Nous l'avons réunifié sur la base d'un programme, qui était le programme de la NUPES. Cela a entraîné l'élection de 150 députés. Et ensuite, en 2024, 192 députés. Voilà, pour moi, la stratégie gagnante, elle est ici. C'est-à-dire un programme de transformation profonde de la société, mais l'unité, ça marche sur deux jambes. Or, Jean-Luc Mélenchon, comme il priorise sa propre candidature personnelle et qu'il se dit qu'il n'est pas forcément le candidat naturel de cet espace plus large, plus uni, eh bien, en fait, il a voulu, pendant de 2022, 2023, 2024, 2025, depuis 4 ans, enfoncer des coins, fragiliser cette union et finalement la rendre impossible. Il a même qualifié la NUPES d'union toxique. Et là, je trouve ça très grave parce que, évidemment, nos ennemis, que ce soit l'extrême droite ou l'oligarchie, c'est-à-dire l'extrême argent, nous veulent diviser et leur faire le cadeau de la division est une erreur. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon devrait passer la main. Il a fait de nombreuses erreurs. Il a mis la gauche et le pays sous tension. Mais en revanche, je suis persuadée que l'électorat insoumis et que même l'encadrement militant insoumis est très important au sein de cet espace uni. Alors bien sûr, la France insoumise recule dans les urnes. Alors ils sont très bons pour dire qu'ils sont très forts partout, mais dans la réalité, par exemple, la France insoumise, c'est 11 députés sortants en 2024 qui ne sont pas réélus, et pas seulement en province, lors des élections municipales qui viennent d'avoir lieu. Dans toutes les villes quasiment où il y avait d'une part une liste d'Union de la gauche et d'autre part une liste insoumise, les listes d'Union de la gauche ont toujours été beaucoup plus fortes que la liste insoumise. Il n'y a qu'un seul exemple de ville prise à la droite avec une liste insoumise, c'est Roubaix. Il n'y en a qu'une. Toutes les autres victoires insoumises le sont contre le reste de la gauche. Or, l'enjeu en 2026-27, c'est d'aller conquérir face à la droite. C'est la droite qui a pris des forces dans une forme d'hégémonie culturelle. Ils ont les médias avec eux, des médias qui, du soir au matin, parlent immigration, islam, voilà, insécurité. Je ne dis pas que nous, on ne s'intéresse pas à l'insécurité. Au contraire, c'est un droit absolument, la sûreté. Je ne dis pas qu'on ne s'intéresse pas à la question de l'immigration ou à la religion. Par contre, attention, il faut absolument qu'on change cette conversation qui est une conversation de division et basée souvent sur des fake news qui stigmatisent, qui poussent à une sorte de guerre civile. Alors qu'en France, nous avons plutôt la passion de l'égalité et nous avons tant de choses à faire ensemble, notamment défendre la classe ouvrière, tout simplement. Nous sommes 30 millions de salariés, hein, des gens qui n'avons rien d'autre dans la vie que notre force de travail et femmes, hommes, jeunes, plus âgés, ensemble, nous devons nous défendre.
Vous avez choisi de vous appeler Front Populaire. Il y a 90 ans, le Front Populaire remportait les élections législatives. Ça a été des conquêtes sociales importantes. On se rappelle évidemment les congés payés. Pour vous, c'est ça l'objectif? Il faut parler aussi de conquêtes sociales. Vous parliez tout à l'heure du droit du travail.
Oui, je pense que la France à ce site particulier, que c'est une société majoritairement attachée à la question sociale. Moi je suis née au Chili, j'ai ensuite, dans l'exil, vécu au Canada. Je connais bien l'Amérique du Nord. Ce sont des sociétés beaucoup plus individualistes. En France, on a une espèce d'historique républicain qui fait que les choses s'entremêlent. Hein, la fraternité, l'égalité, la liberté, tout ça s'entremêle avec la question sociale. C'est pour le moment un point d'appui qui, je pense, sur lequel on aurait tort de ne pas s'appuyer. Le jour où en France, les gens seront hostiles à l'idée même de solidarité entre les générations, par exemple, nous aurons tout perdu. Et on va en parler en 2027. En 2027, la droite a tout à fait l'intention, par exemple, de dire aux actifs, aux travailleurs, aux travailleuses, mais pourquoi en fait vous êtes en train de payer pour la retraite des personnes plus âgées? Et ils remettent en cause cette logique de solidarité. Et pour moi, c'est très grave. Alors qu'il me semble quand même évident qu'à l'échelle d'une vie, si on veut éviter que les enfants travaillent ou que les personnes plus âgées travaillent, il faut bien que ce soit les gens qui sont en âge de travailler qui financent la possibilité de vivre, tout simplement, pour les petits, pour les enfants et pour les personnes âgées. Donc, c'est nécessairement les actifs qui payent pour les autres. Et nous, quand on a été enfant, on a bénéficié du fait que les actifs nous aidaient à vivre. Et quand on sera plus âgé, on se reposera sur le travail de nos propres enfants ou ceux qui n'ont pas d'enfants, pour les enfants des autres. Et c'est bien comme ça.
L'extrême droite est souvent accusée par la gauche de propager le racisme, la discrimination. Mais il y a aussi une dimension économique et sociale au RN. Comment vous voyez cela?
L'extrême droite des États-Unis, donc Trump, est une alliance très explicite entre l'oligarchie financière, économique et les thèses racistes. Bon. En France, la bourgeoisie, le système capitaliste, jusqu'à maintenant, regardait l'extrême droite avec un regard plus critique, refusant un certain nombre d'alliances. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'extrême droite est politiquement si forte qu'elle a entraîné vers elle comme une sorte de force centripète. Et la force centripète, c'est le contraire de centrifuge. Donc l'extrême droite exerce cette force centripète. Elle a attiré par exemple Ciotti, qui était quand même chef de la droite. Il a divisé la droite par rapport à ça. Maintenant, ils sont ensemble avec l'extrême droite. Même Retailleau, on l'a vu lors des élections législatives partielles l'année dernière, il a carrément appelé à battre une candidate socialiste d'Union au bénéfice de l'extrême droite. Et en fait, aujourd'hui en France, on s'aperçoit que, par exemple, Bernard Arnault, Le grand PDG de LVMH, aujourd'hui, dîne avec Marine Le Pen. Que dire du système Bolloré qui, aujourd'hui, par exemple, veut acheter les cinémas UGC et vient de décréter que, plusieurs centaines d'acteurs, producteurs, réalisateurs, techniciens du cinéma qui s'étaient opposés à cet achat, à cette extension du système Bolloré, il a dit, ben, ils ne travailleront plus avec le groupe Canal. Donc on voit bien que les gens de cette oligarchie française sont en train de passer armes et bagages avec l'extrême droite. C'est très inquiétant, mais ce que ça implique surtout, c'est que plus que jamais, il faut l'union. Ça implique qu'évidemment, ce qu'on est en train de faire avec Front Populaire 2027, ça reste pour moi une obligation éthique. Et je dis que ce soit aux insoumis ou à la droite du PS, attention, ne vous trompez pas. Aujourd'hui, personne ne nous pardonnera. Dans un an, si l'extrême droite gagne, les gens nous jetteront des cailloux dans la rue et ils auront raison. Et moi, je le dis, moi ici qui habite en Seine-Saint-Denis, nous sommes quand même un petit peu plus menacés par l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et j'aimerais que tout le monde fasse preuve aussi d'un peu d'empathie en se disant, bon, écoutez, là, faut arrêter avec la guerre des appareils et la guerre des égos. Il faut arrêter avec cette tradition monarchiste présidentielle. Voilà, faisons tous l'effort. Et moi, j'invite chacune et chacun à aller sur le site Front Populaire 2027, à s'inscrire et à écrire à vos amis, à vos élus, à vos députés insoumis ou les autres, les socialistes. Dites-leur, il faut s'unir.
Merci Raquel Garrido. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'Après et co-organisatrice du Front Populaire 2027. Merci.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.